penser ce soir un cycle nouveau, éthique religieuse et éthique chrétienne. Vous avez les différents, je crois, titres de ces 15 conférences. Alors, j'explique un peu comment nous devons essayer de voir l'importance et l'intérêt de ces analyses que nous avons commencées l'année dernière et que nous continuons cette année-ci. Je crois qu'au plan philosophique, quand on est chrétien, quand on est musulman, croyant, et puis quand on est simplement quelqu'un qui cherche et qui n'a pas encore découvert jusqu'au bout la découverte de l'être premier, la découverte de Dieu dont parlent les traditions religieuses. Je crois que dans notre conscience morale, donc dans notre conscience humaine tout court, parce qu'un homme, s'il est un véritable homme, a une conscience morale, conscience éthique. Je dis bien ça parce qu'il peut y avoir des robots parmi les hommes d'aujourd'hui. Et les robots n'ont plus de conscience morale, n'ont plus qu'une conscience d'efficacité. C'est ça que j'appelle un robot. Il n'a plus qu'une conscience d'efficacité. Est-ce que cet homme est capable de réaliser ce qu'on lui demande au point de vue efficacité? Je ne veux savoir que cela. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'est une conscience extrêmement limitée, c'est la conscience uniquement au niveau de l'efficacité. Si on essayait de voir parmi les hommes en France le degré de leur conscience, ce serait intéressant. Je crois qu'on verrait que des quantités d'hommes aujourd'hui, hélas, n'ont plus qu'une conscience d'efficacité. Je ne donne pas de pourcentage, hein. Je vous laisse chacun le mettre. Mais c'est intéressant. On pourrait faire une statistique là-dessus. La conscience de l'homme qui ne regarde que l'efficacité, aussi bien pour lui que pour les autres. Il regarde uniquement sous le point de vue économique et le point de vue de l'efficacité. Un point de vue sociologique, un point de vue psychologique, qui se ramène toujours à l'efficacité. On sait, au point de vue psychologique, que l'angoisse diminue l'efficacité. Un homme angoissé est un homme qui ne peut pas donner tout son rendement. Parce que quand vous êtes angoissé, vous savez bien que vous avez de la peine à pouvoir réaliser pleinement et totalement tout ce que vous êtes capable de faire. Alors, il y a ces fêlures psychologiques d'aliénation, de culpabilité et d'angoisse, pour prendre les trois grandes, qui viennent diminuer notre capacité d'efficacité. Et on juge un homme en fonction de cela. Est-ce que le dernier emploi que vous avez eu, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a été content de vous? Et la plupart du temps, c'est uniquement au niveau de l'efficacité. On est à un niveau infra-moral, et je dirais infra-humain. Le niveau humain commence proprement avec le sens de la responsabilité morale. Le sens de la responsabilité morale, c'est justement lorsque je suis lié à une personne humaine et que je sais que ce lien à cette personne humaine m'engage dans un lien particulier qu'on appelle un lien moral. C'est ce que nous avions essayé d'étudier l'année dernière pour comprendre, face à Nietzsche, qui détruit la morale kantienne. La morale kantienne avait vécu longuement. C'est la morale du devoir. C'est la morale de l'impératif catégorique. Je dois faire cela. Pourquoi ? Parce que je suis un être humain, et profondément pour Kant, parce que la voix de ma conscience rejoint le point de vue religieux. Je dois faire cela. Alors Nietzsche, avec sa pénétration, détruit cette morale kantienne et veut redécouvrir une nouvelle morale qui n'a pas découvert, du reste, la morale du surhomme, qui serait au-delà de la créativité. Et en réalité, Nietzsche reste au niveau de la créativité et considère que l'homme, dans sa dimension plénière, c'est celui qui est capable de réaliser quelque chose, une œuvre nouvelle. Alors, c'est le point de vue de la créativité. Mais il aurait voulu aller plus loin. Il ne faut pas l'oublier. Les intentions de Nietzsche seraient de redécouvrir, au-delà de la créativité, un nouvel amour qui serait un amour du surhomme. Et donc, une morale qui serait au-delà de la créativité, de ce que l'homme est capable de faire, pour redécouvrir des liens qui seraient des liens d'amour. Mais il n'a pas su réaliser cela. Après Nietzsche, nous sommes obligés de reprendre, et c'est ce que nous avions essayé de faire, une morale qui se prend à partir de l'amour d'amitié. Autrement dit, prolonger ce que Nietzsche n'a pas su faire. Non pas tout à fait dans les mêmes intentions, pas tout à fait les mêmes intentions, parce que nous ne reconnaissons pas avec Nietzsche que le point de vue moral, que le point de vue du devoir est complètement à supprimer. Nous rétablirons durant cette année ce que représente exactement la morale de la loi, la morale du devoir. On essaiera de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Non pas à la manière de Kant, parce que pour Kant c'est premier, mais il y a une morale du devoir. Je ne peux pas supprimer ça. Nietzsche la supprime complètement et je comprends pourquoi. C'est parce que cette morale du devoir était liée à un impératif catégorique qui lui-même était lié à un aspect religieux, un aspect divin. Et c'est ça que Nietzsche ne peut pas supporter. Que l'homme ne puisse plus se définir par lui-même et qu'il soit lié à quelque chose de plus. Nous avions essayé l'année dernière, je le rappelle parce que je crois que c'est quand même important pour comprendre le lien de ce que nous avions vu l'année dernière. Il y a toujours la période des vacances qui est faite pour qu'on oublie tout, n'est-ce pas ? Ça fait partie des vacances, hein. C'est comme ça qu'on peut se rajeunir. Alors on oublie tout pendant un moment et puis ça revient après, n'est-ce pas ? Ça revient quand c'est pleinement digéré, assimilé, et alors ce phénomène spécial. L'année dernière, nous avions essayé de comprendre comment, au plan philosophique, on pouvait reprendre une véritable morale à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Dès qu'on fait l'expérience de l'amour d'amitié, on peut comprendre qu'une morale est nécessaire pour maintenir cet amour d'amitié. Parce que dans l'amour d'amitié, on a cette expérience d'une responsabilité. C'est du reste pour ça qu'on a quelquefois très peur de s'engager dans l'amour d'amitié. Parce qu'on sait que quand on s'engage dans l'amour d'amitié, on est responsable de l'ami. Il y a un choix mutuel qui fait qu'on est lié l'un à l'autre. Mutuellement, et on est responsable l'un de l'autre. Et on avait essayé, à partir de cette naissance d'une responsabilité particulière dans l'amour d'amitié, de comprendre ce que représente l'activité morale de l'homme. Et on avait saisi, j'espère compris, que la morale implique nécessairement un amour spirituel. Pas de morale sans amour spirituel. C'est à partir d'un amour spirituel, c'est-à-dire un amour à l'égard d'une personne. Pas un amour passionnel. La passion ne fonde pas la morale. Soyez passionné, c'est très très bien, il faut l'être, mais c'est pas ça qui va fonder la morale. La passion est à un niveau inférieur au point de vue moral. Il faut un amour spirituel, un amour volontaire, un amour personnel qui me lie à une personne que je considère comme mon bien, et c'est à partir de là que naît le point de vue moral. Mais comprenons bien, la morale n'est pas au niveau de cet amour. Cet amour est le fondement. Pas de morale sans cet amour. Mais cet amour est quelque chose de fondamental, de premier, et quelque chose qui échappe à ma liberté. Je ne suis pas libre d'aimer telle ou telle personne. C'est très curieux. Je suis libre d'accepter cet amour, de canaliser cet amour. Ah ça oui. Mais je ne suis pas libre d'aimer telle ou telle personne. Ça s'impose. Pourquoi j'aime telle personne et que telle autre personne m'est complètement indifférente? Il y a des philosophes qui ont inventé les atomes crochus à ce moment-là, mais vous comprenez très bien qu'inventer des atomes crochus, c'est purement imaginatif et c'est mythique, hein. Parce que vous avez des atomes crochus pour prendre telle ou telle personne, alors je suis chiffre A, vous êtes le chiffre B, on ne s'accrochera jamais. Donc on peut se fréquenter, pas de danger, on peut travailler l'un à côté de l'autre. Je suis le chiffre A, vous êtes le chiffre A, ah, dès qu'on va se retrouver, immédiatement ça va s'accrocher. C'est très très bien, atome crochu, ça n'explique rien du tout. Il y a là quelque chose de très mystérieux. Comment se fait-il que telle personne m'attire et que telle autre personne ne m'attire pas? Vous n'allez pas dire que c'est parce qu'elle a un nez droit ou un nez crochu que c'est ça, qu'elle a des yeux bleus ou des... Non, rien du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Alors un magnétisme, oh, mais telle personne même, ça n'explique rien du tout non plus, parce qu'on ne pouvait pas savoir exactement comment ça se fait. On touche là quelque chose de très mystérieux, hein, et de très fondamental, qui est au-delà de notre liberté. Et là, on voit, vous voyez, comment l'amour est antérieur à la liberté. Il y a un amour naturel, instinctif, que je peux dominer. Mais cet amour est une nappe profonde qui est en moi. Alors, qui est éveillée à certains moments, mais qui peut s'éveiller n'importe quand. Je peux aimer quelqu'un quand j'ai 45 ans, quand j'ai 20 ans. 20 ans, c'est normal. 45 ans, ça devient inquiétant. Et quand j'en ai 65, c'est beaucoup plus inquiétant. Tu vois? Parce que ça arrive, ça. Il y a des personnes qui n'ont jamais aimé avant 65 ans. C'est drôle. Et ça fait partie, ça, certaines personnes comme ça. Ça se voit, ça se voit. J'ai des expériences, je ne vous dis pas c'est qui, tu vois? Mais j'ai des expériences dans ma vie où j'ai vu comme ça des amours qui s'éveillaient. Et tout d'un coup, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, je n'avais pas vu ça, qu'il y avait une possibilité, voyez, de terrain volcanique. Alors ça s'éveille, hein. C'est resté très étouffé, des gens très vertueux, vous voyez. Alors ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui, mais dans le temps passé ça existait, des gens très vertueux, ils étaient très vertueux, depuis leur berceau ils étaient vertueux. Et on l'avait très réglé ça, là. Très très vertueux, alors la vertu avait mis quelque chose qui faisait que... Non, ils n'avaient pas compris. Puis alors tout d'un coup, je ne sais pas, il y a eu une faille. Et alors tout d'un coup, ils se sont mis à aimer subitement. Ils se disent, ah, c'est plus fort que moi. Ah, c'est plus fort que moi. Non, c'est jamais plus fort que vous. C'est vous qui vous laissez prendre par une expérience que vous n'aviez pas saisie avant. Parce qu'on éduque son amour. Et c'est vrai, on éduque son amour. On prend conscience de son amour. On prend conscience qu'il y a des possibilités extraordinaires d'accrochage, d'aimer cette personne, d'être prise. Alors, ça c'est très fondamental. Il n'y a pas d'éthique sans amour spirituel. Ça c'est une chose qu'il faut vraiment creuser, très important. Il n'y a pas d'éthique, donc il n'y a pas d'activité morale sans un amour spirituel et personnel qui nous lie à un bien personnel, qui nous lie à une personne. Cet amour, j'en prends conscience. Et dans la mesure où je l'accepte, il devient une intention de vie. Alors c'est le passage du bien aimé à la fin. Et j'avais beaucoup insisté là-dessus, parce que c'est très intéressant de voir le passage du bien à la fin. La fin organise toute ma vie. Je suis orienté vers. C'est le passage de l'amour à l'intention de vie. Et cette intention de vie va se préciser dans un choix. Et ce choix-là, j'expérimente la liberté plénière de choisir ce choix. Mais la liberté est déjà dans l'intention. Parce que je peux transformer cet amour en une intention. Et là, j'en suis libre. Alors, il y a deux types de liberté que nous avions soulignées. La liberté d'intention, la liberté d'exercice, qui est une liberté d'intention et une liberté de choix. Autrement dit, à partir de l'amour d'amitié, je peux comprendre ce premier niveau de la morale, qui est le niveau d'une morale humaine. Je n'aime pas de dire morale laïque. J'aime mieux, parce que le mot morale laïque, vous voyez bien comment il est né. Hein. C'est toujours intéressant de regarder ça. Il est né dans un climat non philosophique et politique. Ordinairement, les choses qui naissent dans un climat politique et qui regardent la personne humaine, c'est quelque chose de faux. La morale ne peut pas être laïque. Elle peut être humaine. Ça, très très bien. Mais pas laïque. Vous n'avez jamais vu un laïque. Moi, j'ai rencontré des hommes. Mais le laïque, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous définissez laïque par l'anti-religieux ? Ordinairement, c'est ce qu'on fait. La morale laïque, c'est la morale anti-chrétienne, vous voyez ? C'est la morale qui se définit comme n'étant pas chrétienne. Attention, est-ce qu'elle reste humaine ? Toute la question est là. Alors, si elle reste humaine, mais dites morale humaine, dites pas laïque. Parce que je n'ai jamais vu une morale laïque, moi. J'ai vu une morale humaine. La morale regarde le cœur de l'homme et la volonté de l'homme. Tandis qu'être laïque, ça regarde un état. Alors un état, oui. Il n'y a pas de morale hein, au niveau de l'état. Est-ce qu'il y a une morale, vous voyez, de tel état particulier ? Non. Alors je crois qu'il faut reprendre, il faut être très, très, au point de vue philosophique, vous voyez, il faut être très net sur les termes. Alors disons morale humaine. La morale humaine, c'est celle qui noue l'homme avec l'homme. Qui le noue à partir de l'amour d'amitié et qui peut s'étendre grâce à la justice. J'ai un amour naturel à l'égard de tous les hommes, une philanthropie. Et grâce à cet amour naturel à l'égard de tous les hommes, il peut à partir de là s'établir une justice. Et cette justice peut rester uniquement au niveau d'une morale humaine. Donc le premier niveau de la morale, c'est ce niveau d'une morale humaine qui se fonde, ou plus, qui se fonde sur un amour spirituel et qui prend naissance à partir de l'amour d'amitié, à partir d'un amour pour l'homme, une philanthropie. Second niveau que nous allons voir maintenant. À partir de cette morale humaine, je vais découvrir une nouvelle dimension de la morale que j'appelle morale religieuse. Et nous allons découvrir successivement une troisième dimension de la morale chrétienne. Si je suis chrétien et que j'ai un peu d'intelligence philosophique, je distingue immédiatement les trois niveaux en tant que je suis un homme, en tant qu'il y a en moi une dimension religieuse que nous allons préciser, et en tant qu'il y a en moi une dimension chrétienne, si je suis chrétien. Et c'est très important de comprendre que les motifs de mon activité ne sont pas les mêmes au niveau chrétien, au niveau religieux, au niveau humain. Il peut y avoir une similitude, une identité à certains moments. Mais normalement, il y a des niveaux différents. Il ne peut pas y avoir d'opposition. Et c'est là, vous voyez, que je maintiens morale humaine et pas morale laïque. Parce que si je maintenais morale laïque, je m'opposerais à la morale religieuse. Et je dirais, je suis dans une perspective dialectique. Donc fausse. C'est une idéologie. La morale laïque est une idéologie. Tandis que la morale humaine est une philosophie. Or, vous savez très bien que l'idéologie tue l'homme. Et la philosophie est au service de l'homme. Il ne faut jamais oublier ça. C'est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Les idéologies mesurent l'homme, parce que c'est l'idée qui passe avant l'homme. Tandis que la philosophie est au service de l'homme. Eh bien, une morale laïque est une idéologie. Tandis que la morale humaine n'est pas une idéologie. C'est pour ça que la morale laïque s'oppose à la morale religieuse. Vous voyez, on va voir les débats pour, par exemple, l'école libre. C'est très important de comprendre ces choses-là, hein, et de les comprendre philosophiquement, de les comprendre réellement, savoir pourquoi on s'engage, et pas uniquement pour des idées. Est-ce que c'est une tradition religieuse ou est-ce que c'est quelque chose de philosophique ? Au niveau d'une morale laïque, on peut établir une éducation, une instruction unique. En disant, il faut cela. Est-ce que vous êtes au service de l'homme ? Ou est-ce que vous êtes au service d'une idéologie ? Si vous êtes au service de l'homme, vous devez respecter toutes les dimensions de l'homme. Or, l'homme est naturellement religieux. Et donc, si vous ne respectez pas cette attitude religieuse, vous êtes anti-humain. Et l'homme peut être chrétien. Et s'il est chrétien, ce n'est pas une mutilation de l'homme. C'est au contraire un ennoblissement de l'homme. C'est l'homme qui va plus loin et qui est pleinement homme parce qu'il est chrétien. Alors si, au nom d'une morale laïque, vous supprimez la possibilité pour l'homme d'être religieux et d'être chrétien, vous voyez qu'à ce moment-là, vous êtes bien dans une idéologie. Parce que ce n'est plus l'homme que vous regardez, c'est votre idée. Et c'est votre idée que vous appliquez. Et vous ne voulez pas qu'on dépasse cela en disant « Ah, oh, vous êtes religieux, vous êtes chrétien, ça n'a rien à voir. » Ah, je suis un homme, respectez-moi. C'est donc un manque de respect par rapport à l'homme. Et si c'est un manque de respect par rapport à l'homme, c'est une mutilation. C'est un état de violence. Et quand on est dans un état de violence, on a le droit, le devoir de dire « Attention, je n'ai pas le droit d'accepter cela. » Vous voyez, c'est tout ça qui est en enjeu dans ce point de vue de cette morale religieuse, cette morale chrétienne. C'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre au point de vue philosophique. Qu'au point de vue philosophique, nous devons respecter qu'il y a dans l'homme des niveaux de responsabilité différents. Et que les niveaux de responsabilité ne sont pas uniformes. Il y a des niveaux de responsabilité, puisque de fait, le point de vue éthique naît à partir d'une responsabilité. Et dès qu'il y a une nouvelle responsabilité, il y a un nouveau niveau éthique. Alors, je crois que nous pourrons essayer ensemble, c'est ça que je voudrais, ça touche un enjeu extrêmement actuel. C'est pour ça que c'est important et intéressant, parce que ça touche quelque chose qui est difficile à bien préciser, et quelque chose qui est terriblement actuel. Vous comprenez que la politique présuppose l'éthique. Alors, il y aurait des questions analogues. Y a-t-il une politique religieuse ? Y a-t-il une politique chrétienne ? J'ai parlé d'éthique. Mais il faudrait mettre en parallèle. Y a-t-il une politique, puisque éthique et politique se tiennent toujours ? pas, le point de vue éthique et politique, ça se tient. Je crois qu'il n'y a pas de vraie politique sans éthique. Il n'y a que dans notre monde d'aujourd'hui où, de fait, on voudrait une politique sans éthique. Et vous savez très bien qui veut ça. Une politique sans éthique, c'est une politique qui repose uniquement sur l'économie. Alors, il n'y a plus que les problèmes économiques. Regardez dans les campagnes électorales, hein, c'est le problème économique qui passe en premier lieu. On ne parle plus de l'homme. Qu'est-ce qui se présente en disant « moi, je suis pour l'homme ». Non, je suis pour « ah, vous donnez un plus grand bien, vous verrez, plus de chômage au bout d'un certain temps, et puis bien, il y aura nécessairement un bien-être beaucoup plus grand ». Tout ça, ce n'est pas politique, c'est économique. Une vraie politique est au niveau de l'homme. Et au niveau de l'homme, elle implique le point de vue éthique. Et donc, une véritable politique implique une éthique. Alors, est-ce que, comme je distingue trois degrés, je pose la question, hein, nous essaierons d'y revenir peut-être au terme, ça ne fait pas partie des questions, mais c'est intéressant à voir ça comme question sous-jacente. Vous voyez qu'il y a trois niveaux éthiques, l'éthique humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne. Y a-t-il trois niveaux politiques? Je pose la question, hein. Y a-t-il la politique humaine, une politique religieuse, une politique chrétienne? Je vous ai dit, la seule chose qu'un homme politique doit dire, c'est de rappeler l'homme. Il y a une politique humaine. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une politique religieuse. Ça existe. Dans certains pays, religion d'État, ça existe, hein? Et on exclut tous ceux qui ne sont pas de cette attitude religieuse. Alors, est-ce que ça existe? Philosophiquement parlant, vous voyez, je suis persuadé que si je vous demandais la question et de mettre ça sur un petit papier, j'aurais des réponses très très diverses. J'aurais des oui et des non, et des non et des oui. N'est-ce pas ? Il y a une politique religieuse, oui, oui, c'est souhaitable. Israël avait une politique religieuse. Les musulmans ont une politique religieuse. Et dans l'orthodoxie, il y a souvent une politique religieuse. Et dans l'Église catholique, il y a eu des moments de politique religieuse. C'est très curieux, ça. Alors, est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est, au fond, une confusion? Pas si commode que ça de répondre. Hein? Et alors, si je pousse, y a-t-il une politique chrétienne? Y a-t-il une politique musulmane? Y a-t-il une politique israélite? Il faut se poser la question parallèlement aux questions que je pose. Vous voyez, je ne résous pas le problème. C'est bon. Comme ça, je vous laisse le soin de le résoudre. Et donc d'être intelligent. Et de le résoudre vous-même. Et si vous ne savez pas le résoudre, c'est parce que vous n'avez pas assez réfléchi. Et donc, ça vous donne le désir de réfléchir un peu plus. Et d'aller un peu plus loin au point de vue philosophique. Et c'est difficile, c'est très difficile, c'est pas commode du tout. L'année dernière, dans la communauté Saint-Jean, on avait ouvert une grande discussion là-dessus. Et je vous affirme que c'était assez animé, hein, parce qu'il y avait des tendances multiples et diverses qui s'animaient, même à l'intérieur d'une même communauté. Et bien, il y a des tendances diverses. Alors, vous voyez tout de suite, hein, les enracinements. Parce que l'enracinement politique, vous savez, il n'y a rien de tel que les passions politiques, hein, pour voir les enracinements. Parce que ça, c'est très ancien, les points de vue, les passions politiques, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père, on est de tradition politique comme ça, très bien, ou alors juste l'inverse, tu vois, on a pris juste parce qu'on était de tradition comme ça, j'ai pris le 7 contre 1 en opposition. Tout ça, c'est pas très intelligent, parce que être intelligent, c'est justement d'avoir découvert l'au-delà d'une tradition religieuse familiale. toute tradition religieuse, toute tradition familiale, toute tradition politique demande d'être purifiée par l'intelligence. Je n'ai pas le droit de suivre aveuglément une tradition familiale. Je n'ai pas le droit de suivre aveuglément une tradition religieuse. Je n'ai pas le droit de suivre aveuglément une tradition politique. Sauf si je suis traditionnaliste. Vous voyez, c'est dans quel sens, hein, le traditionnalisme, c'est une philosophie particulière. Mais je n'ai pas le droit si je suis intelligent. Si je suis philosophe, je n'ai pas le droit. Parce qu'à ce moment-là, je deviens des moutons de Panurge. N'est-ce pas ? Je suis parce que ça a toujours été comme ça. Oui, mais les circonstances ont changé. J'ai oublié que ça a changé. C'est vrai, je ne vis plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, cette chose était très légitime. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est plus légitime. Il y a quelque chose qui demeure, l'éthique. L'éthique du Moyen-Âge et l'éthique d'aujourd'hui est la même. La politique n'est plus la même. Il y a une dimension différente au point de vue politique. Il y a une dimension différente par rapport au point de vue éthique. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Parce que le point de vue éthique repose sur le point de vue de la personne humaine. La personne humaine a-t-elle changé depuis saint Thomas à notre jour? Non. Depuis Aristote à nos jours. La personne humaine, hein, c'est-à-dire l'esprit lié à telle nature, ça n'a pas changé. Est-ce que mon bonheur dans l'ordre de l'amitié est le même? Est-ce que l'amitié a changé? Non. Est-ce que le cœur de l'homme a changé? Est-ce que l'intelligence de l'homme a changé? Non. Le point de vue politique, c'est très différent. Ça touche le comment. Ma manière particulière de vivre. À ma manière particulière de vivre n'est plus tout à fait celle du Moyen-Âge. C'est très facile à comprendre. C'est plus tout à fait la même. Alors je peux souhaiter, hein, que le Moyen-Âge revienne. Très bien, il ne reviendra jamais. Mais je peux le souhaiter, si vous êtes un idéaliste parfait. N'est-ce pas? Alors vous pouvez souhaiter que ça revienne. Ça ne reviendra jamais. On ne reviendra jamais à ça, c'est impossible. Alors, il faut comprendre que les situations changent. Le point de vue politique fait intervenir le point de vue du comment de la vie humaine. Pas seulement la finalité, mais le comment de la vie humaine. Comment je dois vivre en communauté humaine? Une communauté religieuse d'aujourd'hui n'est plus la même que la communauté religieuse du Moyen-Âge. Et si je vis dans une espèce de mythe d'une communauté religieuse du Moyen-Âge, en disant il faut rétablir ça, je suis un peu dans l'idéalisme, je manque de réalisme. La communauté religieuse aujourd'hui n'est plus la même, comme la communauté politique, comme la famille. Et la famille touche plus le point de vue de la finalité, donc elle change moins. Mais elle change quand même, parce que c'est une communauté, et donc elle change. Mais je crois que quelqu'un du Moyen-Âge, vivant dans une famille chrétienne, reviendrait aujourd'hui dans une famille chrétienne, je dirais, mais je ne connais rien du tout, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout à fait en dehors du point de vue chrétien. S'ils tombaient, vous voyez, en voulant immédiatement regarder le point de vue d'un prolongement, non. Au point de vue éthique, ils retrouveraient la même chose. Parce que le point de vue de l'éthique se fonde sur la finalité. Donc, je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez la complexité de tous ces problèmes. En traitant la question de l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne, nous touchons une quantité de problèmes. Et c'est très important, je crois, de faire cette recherche. Alors, j'aborde tout de suite le sujet prévu. Comment la découverte de l'existence de Dieu permet-elle aux philosophes de développer une nouvelle dimension de l'éthique? Alors, comprenons. L'homme, dans sa découverte métaphysique de l'existence de Dieu. Si vous n'êtes pas suffisamment métaphysicien ou métaphysicienne, pour découvrir par vous-même l'existence de Dieu, vous pouvez vous appuyer sur les traditions religieuses. Tant qu'on n'a pas soi-même fait cet effort, on s'appuie sur les traditions religieuses. Les traditions religieuses me disent qu'il y a un Dieu créateur. Toutes les traditions religieuses. Et le philosophe, dans la mesure où il a par lui-même découvert l'existence de Dieu, alors à ce moment-là, il a purifié les traditions religieuses et il a vu comment par lui-même il pouvait atteindre l'acte pur, l'être premier. Il a reconnu que cet être premier, c'était nécessairement le Créateur. Il a lui-même recherché le lien qui existe entre cet être premier et lui-même. Il a découvert le problème de la création. Vous voyez bien où je me situe. Les deux sources, hein, ou votre intelligence métaphysique, ou les traditions religieuses. Alors évidemment, il vaut mieux avoir les deux. Jésus, les deux sources. Avoir l'intelligence métaphysique, je vois très bien comment je puis arriver à prouver l'existence de Dieu. J'y arrive par moment. Il y a une petite étincelle. Il y a des moments où je suis plus fatigué, je n'y arrive plus. Je me rabats sur les traditions religieuses. Je sais que toutes les traditions religieuses ont reconnu l'existence d'un être premier. Les petits pygmées reconnaissent l'existence d'un être premier. Toutes les religions animistes reconnaissent l'existence d'un être premier et d'un créateur. Il faut aborder une culture qui a été chrétienne et qui ne l'est plus pour dire que Dieu n'existe pas. Donc c'est la retombée. Ce n'est pas une montée. Et c'est vrai, ça c'est un fait, hein. Étudiez la philosophie, vous verrez l'histoire des traditions religieuses. Vous verrez que toutes les traditions religieuses affirment l'existence d'un être premier. Un créateur. Il faut que ces traditions religieuses aient été vécues à travers le christianisme et que le christianisme ne soit plus vécu pour qu'on aboutisse aux idéologies athées. Les idéologies athées sont nées à travers une culture chrétienne. Et les idéologies athées ne pourraient pas se comprendre sans la culture chrétienne. Ça, c'est un fait. Vous n'avez qu'à vous-même faire cette coupe. Toutes les idéologies athées actuelles ne se comprennent que sur un fond de christianisme. Parce que le christianisme a tellement affiné l'homme, et c'est vrai, le christianisme a tellement affiné l'intelligence de l'homme et le cœur de l'homme, que si je n'accepte plus le point de vue de la foi, il y a une retombée terrible. Corruption. Hein? La corruption de ce qui est meilleur et ce qui est pire. La corruption d'une culture chrétienne, c'est ce qui est pire. C'est pire que la corruption de l'Empire, de la culture de l'Empire. C'est pire que la corruption de la culture grecque. C'est la corruption la plus forte. Parce que la culture chrétienne, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de plus grand. En culture religieuse. Alors c'est normal que ce soit la corruption la pire. Corruption optimi pessima. Faut pas l'oublier, ça. Alors, si je me place, donc, dans la perspective d'une intelligence qui découvre l'existence de Dieu, qui découvre que Dieu est le Créateur, si je me place dans la perspective des traditions religieuses qui me disent qu'il existe un Dieu créateur, je peux dire qu'à partir de ce moment, l'éthique a une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension de l'éthique, c'est le point de vue religieux. Alors, je définis avec vous cette dimension nouvelle de l'éthique. Je vous ai dit précédemment, l'éthique naît à partir d'une responsabilité. Ça, je crois. Je crois que quand il n'y a pas conscience d'une responsabilité, il n'y a pas d'éthique. Un être irresponsable est un être amoral. C'est ce qu'on dit habituellement. Il est complètement irresponsable. Donc, il est amoral. Tandis que dès que vous êtes responsable, eh bien, c'est tout de suite le point de vue du point de vue moral. Le point de vue éthique va avec le point de vue de la responsabilité. Or, la découverte au plan philosophique que je suis, que je le prends pour moi-même, je suis un être créé, ou, en m'appuyant sur les traditions religieuses, je suis un être dépendant d'un être premier que j'appelle le Créateur. Je découvre donc qu'il y a en moi une dépendance radicale de tout mon être. C'est cela la découverte d'être une créature, d'être dans cette attitude de dépendance radicale à l'égard d'un être premier. Et ceci, je peux le découvrir. Je peux le découvrir intellectuellement, je peux le découvrir affectivement grâce aux traditions religieuses. Les deux découvertes, encore une fois, ne s'opposent pas, le fond s'unissent. Il y a une découverte affective au niveau tradition religieuse, il y a une découverte intellectuelle au niveau proprement métaphysique. Je vois que je suis dépendant radicalement d'un être premier. Cette dépendance de la créature à l'égard du Créateur, met la créature dans un état totalement relatif, totalement dépendant. Alors, je ne découvre pas de responsabilité. Je suis comme ça. Donc, il n'y a pas de nouvel aspect éthique. Découvrir que l'univers dépend de Dieu, ben, l'univers il n'en peut rien, il dépend de Dieu. Découvrir que je dépends de Dieu, ben, je n'en peux rien. C'est pas moi qui ai demandé d'exister. Je dépends de Dieu, très bien, je le sais. Et donc il n'y a pas de nouvelle éthique. Je dis ça, je souligne, parce que c'est l'objection de certains. Il faut bien comprendre cette objection. C'est vrai, à première vue, je dirais, mais c'est très vrai. Je dépends de Dieu, mais je n'en peux rien dépendre de Dieu. Or, vous avez dit que l'éthique impliquait une responsabilité. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas moi qui m'ai créé. C'est Dieu qui m'a créé. Il ne m'a pas demandé mon avis. Et ça, c'est vrai. Pour chacun d'entre nous, nous savons très bien qu'il ne nous a pas demandé notre avis. Et donc, s'il n'a pas demandé mon avis, je ne suis pas responsable. Donc, il n'y a pas de nouvelle éthique. Découvrir la dépendance à l'égard de Dieu, c'est découvrir tout simplement un état de limite. Je suis un être limité, je suis dépendant de Dieu. Vous voyez, cette objection, elle est très forte. Hein. On voit très bien quand on est dans un état de rage, parce que ça ne va plus du tout. On dit, après tout, c'est pas moi hein, qui ai demandé d'exister. Je n'en peux rien. Et quelquefois, on fait tomber ça jusqu'aux propres parents. Si j'existe, c'est à cause de mes parents. Je n'aurais pas demandé. C'est eux qui l'ont voulu. Alors, je ne suis pas responsable, c'est eux. Donc, il y a la morale des parents, mais l'enfant est indépendant. Et je pousse un peu plus loin vis-à-vis de Dieu. Je ne l'ai pas demandé. Donc, c'est Dieu qui est responsable. Alors, il y a une éthique du Créateur, mais il n'y a pas une éthique de la créature, puisque la créature ne dépend pas. Alors, comment répondre à ça? Il y a une réponse. Attention. Je suis dépendant de Dieu dans mon être. Nous avons vu que la morale n'était pas au niveau métaphysique. C'est très vrai, au niveau métaphysique, la dépendance que j'ai à l'égard de Dieu, j'en suis irresponsable au niveau métaphysique, hein, au niveau de mon être. Je constate que je suis totalement dépendant de Dieu. Mais Dieu m'a créé comme un être vivant. Mais Dieu m'a créé comme un être intelligent. mais Dieu m'a créé comme un être qui a l'esprit. La morale n'existe qu'à partir d'un amour spirituel, je vous l'ai dit. Y a-t-il, à partir de cette constatation de la dépendance à l'égard de Dieu, un nouvel amour? Toute la question est là. S'il n'y a pas de nouvel amour, alors il n'y a pas de morale. Vous voyez, c'est pour ça que certains voudraient détruire l'amour de l'enfant pour la mère. Vous savez bien, certains psychanalystes plus royalistes que Freud, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, certains psychanalystes plus royalistes que Freud voudraient détruire l'amour naturel de l'enfant vis-à-vis de sa mère. En détruisant cet amour naturel de l'enfant vis-à-vis de sa mère, il détruit l'éthique familiale. Puisqu'il n'y a éthique que dans la mesure où il y a amour. Y a-t-il un amour spirituel de la créature spirituelle à l'égard de Dieu? Eh bien oui. Il y a un amour naturel de la partie à l'égard du tout, comme dit saint Thomas. Il y a un amour naturel de la partie à l'égard du tout. Un amour naturel fondamental en nous, qui est spirituel. J'aime naturellement mon Créateur. Il y a en moi un appétit naturel qui me porte vers Dieu. C'est pour ça que certains psychanalystes d'aujourd'hui reconnaissent que supprimer volontairement ce sentiment religieux de l'homme vis-à-vis de son Créateur, vis-à-vis de son Dieu, c'est le mettre dans un état de refoulement fondamental. Parce qu'on refoule, on rejette ce qu'il y a de plus naturel dans le cœur de l'homme. Ce qu'il y a de plus fondamentalement naturel dans le cœur de l'homme, c'est de retourner à sa source. S'il est parti, s'il est créature, il est une partie. Il est limité. Il y a en lui un appétit naturel dont il n'a pas immédiatement conscience. Il y a en lui un appétit naturel vers Dieu, vers la source de son être, vers la source de son intelligence, vers la source de sa volonté, de son amour. Il y a en lui un appétit naturel qui le porte vers Dieu. Alors, je suis responsable du développement de cet appétit. Je suis responsable de la conscience que je peux prendre de cet appétit naturel, de cet amour naturel. Je suis responsable de rejeter cet appétit ou au contraire de le développer. Alors là, je découvre une responsabilité très radicale. Et je découvre donc là un nouvel aspect de l'éthique. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors je reviens à cette analogie que nous avions déjà vue. Je suis responsable d'un amour à l'égard de telle ou telle personne. Je peux développer cet amour, ou au contraire l'arrêter. Et je suis donc responsable de cet amour. Et l'éthique commence justement dans le fait que je suis responsable de ces atomes crochus que j'ai vis-à-vis de telle personne. Ou au contraire, de cette opposition que j'ai vis-à-vis de telle autre personne. Je me sens attiré vers cette personne, je me sens au contraire dans un état de répulsion vis-à-vis de telle autre personne. Je suis responsable de développer cet amour ou au contraire de développer cette répulsion. Et je sais qu'en développant cette répulsion, ça pourra très bien aboutir à une haine farouche. Et je peux développer cet état d'attirance, et cet état d'attirance pourra développer en moi un grand amour. J'en suis responsable. De cet amour, je ne suis pas responsable, il est naturel, il est foncier. De cette antipathie, je ne suis pas responsable, elle est radicale en moi, mais je suis responsable de le développer ou pas le développer. Vient vis-à-vis du Créateur, vient un appétit naturel qui me porte vers lui. Je suis donc responsable de le développer ou de ne pas le développer. Et c'est là où commence à naître l'éthique religieuse. L'éthique religieuse consiste à découvrir qu'il y a en moi, au plus intime de mon être, et c'est parce que c'est tellement profond que je peux plus facilement l'étouffer qu'un amour naturel. Parce que cet amour commence par ce qu'il y a de plus spirituel en moi. C'est par ma partie la plus spirituelle que je suis de fait relié à mon Créateur. Mais cette partie la plus spirituelle touche en même temps mon être dans ce qu'il a de plus radical. Cet appétit naturel donc qui me relie à la source de mon être. C'est quelque chose de tellement radical en moi que, à première vue, je pourrais dire, mais ça m'échappe. C'est quelque chose qui m'échappe. C'est quelque chose qui s'impose à moi, mais que je ne saisis pas. C'est très vrai. C'est quelque chose de tellement radical que je peux facilement ne pas en tenir compte. Mais c'est quelque chose de naturel. Et je puis donc, au contraire, être attentif à cela. Dire c'est tellement radical, c'est tellement naturel, c'est tellement profond que c'est très important. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important en moi. Aimer ceux qui sont proches de moi, très bien. Mais découvrir ma source, découvrir la source de mon être, la source de mon intelligence, la source de ma volonté, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important en moi, découvrir ça. Alors, si je suis attentif à cela, si je suis attentif à ce que mon intelligence peut m'en dire, si je suis attentif à ce que les traditions religieuses peuvent me dire de cela, à partir de là, je prends de plus en plus conscience de cette tendance profonde que j'appelle tendance religieuse. Alors pourquoi je l'appelle tendance religieuse ? C'est-à-dire une tendance qui me relie à ma source, qui me relie à celui dont je dépends totalement. Religare, hein ? C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, il faudrait peut-être aujourd'hui traduire autrement religieux, parce que religieux, ça a un halo affectif. Hein ? Alors il faudrait peut-être dire la tendance la plus naturelle qui me relie à ma source. Là, il n'y a plus du tout le halo affectif religieux. Et c'est exactement la même chose. Cette tendance la plus radicale qui me relie à ma source. Si je suis capable d'être relié à ma source, et que être relié à ma source, et être consciemment relié à ma source, c'est découvrir ce qui en moi peut me développer le plus, c'est quand même très important de découvrir ça. C'est quand même capital de découvrir ça. Si je peux le faire, je dois le faire. Voyez, la naissance dont je prends conscience au point de vue philosophique de cette nouvelle dimension éthique, de cette nouvelle responsabilité. C'est quelque chose de très enfoui. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose de radicalement naturel. Tout à fait d'accord. Je peux en prendre conscience. Et si je peux en prendre conscience, je dois en prendre conscience. Parce que si je ne suis pas relié à ma source, je suis un être errant. Je ne sais plus où je vais. Parce qu'être relié à ma source, c'est quand même être lié à ce qui, pour moi, a la plus grande importance. Tant que je ne suis pas relié à ma source, eh bien je ne sais pas exactement ce que je suis. Au point de vue de mon intelligence, au point de vue de mon amour. Alors, il faut essayer de saisir l'importance que représente ce fait d'être relié à sa source. Et c'est cela, je crois, la découverte première de cette nouvelle dimension éthique. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Quand je découvre l'amour à l'égard d'une personne, je ne découvre pas la dépendance radicale dans mon être. Je découvre que je suis capable de me lier à telle ou telle personne. Quand je découvre la dépendance à l'égard de mes parents, je découvre qu'en effet, je dois les respecter parce qu'ils sont avant moi, ils sont plus âgés que moi, ils m'ont donné la vie très très bien. Mais quand même, hein, mon âme spirituelle ne dépend pas d'eux. Et je sais très bien que mon âme spirituelle ressemble à Dieu, je peux le dire, hein, philosophiquement parlant, et ne dépend pas des parents. C'est pour ça que je suis si différent d'eux. J'ai des goûts totalement différents. Ils sont de cette génération, moi je suis d'une autre. J'ai des goûts totalement différents. Donc, au fond, cette dépendance, je l'accepte, je la reconnais, oui, quand je suis dépendant d'eux. Mais le jour où je ne suis plus dépendant d'eux, je suis capable de gagner ma vie seul. Je dis, bon, très bien, je vais développer ma personnalité autrement, parce que ma personnalité est totalement différente de celle de mes parents. Donc c'est une dépendance relative, ce n'est pas une dépendance radicale. Et c'est vrai, la dépendance à l'égard des parents n'est pas une dépendance radicale, c'est une dépendance relative qui regarde tout mon conditionnement biologique, tout mon atavisme. Mais il y a quelque chose en moi qui est beaucoup plus profond, le dépassement de ma propre personnalité, où je peux orienter ma vie comme je l'entends. Je peux l'orienter de telle ou telle manière. Mes parents l'ont orienté comme ça, mais très bien, ça les regarde. Moi, je veux l'orienter autrement. Et les parents n'ont qu'un droit de conseil, et quand ce droit de conseil se transforme en un droit tyrannique, on se met à ruer dans les rancards, en disant non, je veux quand même développer ce qui est essentiel en moi. Et c'est légitime. C'est légitime, puisqu'au fond, chaque être humain a sa propre vocation. Donc je vois que cette dépendance à l'égard des parents fait que c'est quelque chose de limité. Tandis que quand je découvre la dépendance à l'égard de la source de mon être, de la source de mon intelligence et de mon amour, je vois que cette dépendance regarde tout mon être, tout mon esprit, toute mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle est créée directement par Dieu. Je vois donc que cette dépendance est une dépendance qui ne regarde pas seulement le conditionnement, mais qui touche directement à ma finalité. Parce que ma finalité, dans ce qu'elle a de plus profond, c'est d'être capable de retourner à ma source. Et tant que je ne retourne pas à ma source, je ne serai jamais pleinement moi-même. Et donc, cette découverte que je fais de cette dépendance à l'égard de l'être premier et du créateur est quelque chose d'unique. C'est en ce sens-là que cette dimension de l'éthique au niveau religieux est une dimension radicale qui prend tout mon être. Pas seulement mon conditionnement, pas seulement un milieu dans lequel je vis, mais ça prend tout mon être. Et c'est pour ça que là, je découvre vraiment, au point de vue éthique, quelque chose de tout à fait nouveau. C'est bien dans le sens de l'éthique et de la responsabilité, je suis responsable de cela. Dieu m'a laissé libre, et ça nous le verrons. Dieu m'a laissé libre d'accepter ou de ne pas accepter cette dépendance. C'est vrai. Je l'accepte librement, cette dépendance à l'égard d'un être premier. Et alors c'est ici, il faut se rappeler cette parole extraordinaire de Plotin, parce que je trouve ça très beau, et nous aurons l'occasion d'y revenir, parce que c'est un peu le leitmotiv de toute la morale religieuse. Plotin dit, donc dans un milieu païen, mais un milieu religieux, qu'il ne faut pas oublier, Plotin dit, accepter la dépendance à l'égard d'un être qui est supérieur à moi, c'est une libération. Accepter la dépendance d'un être qui est inférieur à moi, c'est une aliénation. Si j'accepte la dépendance à l'égard d'un être qui est inférieur à moi, je me diminue. Vous voyez, quand vous acceptez la dépendance à l'égard du petit chat ou du petit chien, ça peut arriver, ça. L'éthique que vous avez à ce moment-là, n'est-ce pas, vous acceptez cette dépendance à l'égard du petit chat ou du petit chien, eh bien, vous vous aliénez, vous vous diminuez. Et c'est vrai, ça. Au bout d'un certain temps, vous savez bien ce qui se passe. C'est que, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, on voit très bien ce qui se passe. Au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a comme une espèce de lien qui se fait. Et donc, on se diminue. Accepter la dépendance à l'égard d'un être qui est supérieur à nous, c'est nous libérer. Pourquoi ? Parce que c'est de comprendre que celui qui m'a créé par amour. Et me remettre à lui, c'est de pouvoir vivre de son amour. C'est ce que nous verrons successivement dans cette morale religieuse.